Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le fruit d'une enquête qui est encore en cours et qui en est même plutôt à ses débuts en termes non pas de terrain, mais d'analyse. Hein. Ce que je vais présenter, ça a l'air parfois d'être des résultats, mais c'est plus en fait des hypothèses que je vous soumets. C'est une enquête qui porte plus largement sur les jeunes femmes d'origine comorienne qui s'intéressent à leur trajectoire, au rapport à leur pays d'origine, à leurs affiliations, leurs identifications. Et donc, dans cette communication, ce qui m'intéresse, c'est de creuser donc leur rapport à l'islam, leur rapport au religieux. Alors, pour l'instant, l'enquête repose sur 18 entretiens seulement, donc c'est le début, enfin, c'est déjà pas mal, mais voilà. Ce sont des entretiens qui ont pris la forme de récits de vie, donc qui étaient assez longs, assez approfondis, qui ont duré entre 1h30, 2h et même jusqu'à 3h, 3h30, qui ont été parfois répétés. Ils ont été conduits avec des femmes qui étaient âgées d'une vingtaine d'années pour la majorité et d'autres femmes qui avaient aussi entre 35 et 40 ans. L'idée ici, c'est les premiers entretiens que j'avais conduits avec ces jeunes femmes m'avaient amené à poser l'hypothèse de certaines spécificités dans leur rapport à la religion. Et donc, c'est un peu cette hypothèse, cette piste d'analyse que j'ai voulu creuser, voir un petit peu remettre en cause, en poursuivant l'enquête. L'idée étant d'essayer d'éviter d'ethniciser le regard qui pouvait être porté sur cette population, et donc de resituer leur rapport au religieux dans leur trajectoire plus largement. Je m'inscris vraiment dans les travaux qui cherchent à analyser le rapport à la religion en s'intéressant plus largement à l'ensemble des expériences, des sociabilités, des modes de relation dans lesquels ces rapports aux religions, à la religion s'inscrivent. Alors, avec une attention aussi dans l'analyse, une attention particulière portée à la question du genre. Alors, premier élément un peu d'hypothèse, ce qui m'a frappé en fait dans ces entretiens, c'est la continuité assez forte en fait entre d'un côté l'islam qu'elles ont reçu hein, dans la famille mais aussi dans d'autres cadres collectifs et l'islam qu'elles revendiquent aujourd'hui et les identités mais aussi les pratiques religieuses qui sont les leurs. Donc tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que la religion occupe dans tous les cas que j'ai rencontrés une place très importante, comme elle a été d'ailleurs aussi centrale dans leur famille. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que leur niveau de pratique, donc elles étaient toutes issues de familles pratiquantes, et leur propre niveau de pratique était important également. Donc je détaille pas parce que je sens que je vais dépasser si je donne trop de détails, mais donc elles ont un niveau de pratique important. Donc cette continuité, elle m'avait frappée parce qu'elle contrastait avec ce que j'avais pu lire dans d'autres enquêtes qui avaient porté aussi sur des jeunes musulmanes, mais plutôt sur des jeunes musulmanes d'origine maghrébine d'ailleurs, parce que les travaux ont été plutôt sur ces populations-là, et qui soulignaient beaucoup plus que l'investissement religieux pouvait être dans bien des cas un vecteur de prise d'autonomie par rapport à la famille, par rapport aux relations d'autorité qui s'y exerçaient, par rapport à la domination masculine aussi qui pouvait s'y exercer. Donc là, on ne trouve pas cela, ou en tout cas, on ne le trouve pas de manière aussi forte. Je vais montrer qu'on le trouve quand même un peu dans un second temps. Donc du coup, pour comprendre ça, il faut resituer un peu leur rapport à la religion par rapport à plusieurs caractéristiques de leur condition d'existence, de leur socialisation religieuse, mais pas seulement. Premier point, l'immigration comorienne, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une immigration qui a été très tôt familiale et les institutions de transmission de la religion, enfin de transmission religieuse, en particulier les écoles coraniques ont été mises en place, comoriennes, ont été mises en place assez précocement, hein, si on compare par exemple l'immigration comorienne à l'immigration nord-africaine. Et donc les jeunes femmes que j'ai rencontrées ont toutes fréquenté l'école coranique, le Chioni pour parler des écoles comoriennes. Ces chionis jouent un rôle premier dans l'éducation religieuse des enfants, dans le sens où la famille socialise les enfants aux normes, aux pratiques, aux routines religieuses, mais elle est plus rarement le lieu de discours religieux explicites, de discussions sur la religion, et même d'apprentissage à proprement parler. Et donc c'est véritablement l'école coranique qui a joué ce rôle-là, notamment parce que il s'agit souvent aussi de familles issues de milieux populaires, avec des mères qui n'ont pas été à l'école ou peu, et qui ont des savoirs religieux relativement limités, en tout cas pour les mères. Certains pères ont plus de savoirs religieux, mais c'était quand même pas le cas le plus fréquent. Deuxième point, c'est que donc ça c'est assez connu sur l'immigration comorienne, mais les familles d'origine comorienne ont cherché à réinstaurer dans le contexte de migration les formes de solidarité villageoise qu'elles connaissaient aux Grandes Comores, par le biais en fait de tout un tissu associatif d'associations qui en fait entretiennent cette solidarité du village d'origine et qui mettent en place aussi d'ailleurs des actions de développement en direction des Comores. Et donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que moi j'ai enquêté pour l'instant, et c'est un peu ce que je vais faire, c'est justement diversifier les terrains d'enquête, parce que pour l'instant moi j'ai enquêté dans des lieux où les populations comoriennes étaient non seulement nombreuses, mais aussi structurées en termes d'associations religieuses et communautaires. Donc j'ai enquêté à Paris, à La Courneuve et à Marseille, donc ce sont vraiment les endroits où il y a de fortes communautés comoriennes, et je fais l'hypothèse que c'est un petit peu différent quand on enquête dans sur des terrains où les populations comoriennes sont moins nombreuses et plus dispersées, et donc potentiellement aussi moins structurées. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en fait on a un encadrement collectif des pratiques qui est plus important, et un contrôle social aussi des conduites des jeunes qui est particulièrement marqué, notamment en direction des filles. Donc la société d'origine, les Comores, est fondée sur une organisation qui est matrilinéaire, matrilocale également, mais les rôles de genre et la hiérarchisation selon le genre sont assez marqués. Alors les rapports de genre évoluent en contexte de migration, mais d'après ce que les jeunes filles rapportent et d'après les observations que j'ai pu faire également, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un contrôle quand même très important des filles, de leur corps, de leur sexualité, de leur sortie, etc. Et donc les mères sont particulièrement louées ou au contraire stigmatisées par rapport aux mœurs de leurs filles. Par contraste, j'ai pas interrogé d'hommes, mais j'ai enquêté dans des fratries, j'ai eu l'occasion aussi de voir ça. Par contraste, la sexualité des garçons, leur sortie, leur sociabilité sont beaucoup moins contrôlées et n'ont pas de réelles conséquences en termes de réputation des parents et des familles. Autre élément important, la forte proximité familiale aussi qui caractérise l'existence de ces jeunes femmes. Alors certaines d'entre elles sont étudiantes, et la plupart en fait sauf une vivent chez leurs parents, et donc elles n'ont pas décohabité. Et pour celles qui sont mariées, elles entretiennent encore des relations très fortes avec leur famille. Donc elles sont globalement toutes ces conditions d'existence là font qu'on a un encadrement familial et collectif des conduites qui est particulièrement important et qui donc permet d'éclairer la continuité entre l'héritage religieux et les identités des jeunes filles. Je sais pas où j'en suis dans le temps. Si je suis courte ou pas, non.
Ouais. Alors, il vous reste 6 minutes.
D'accord. Ouais. Merci. Alors, ceci étant dit, cette continuité n'empêche pas, bien évidemment, des formes d'individualisation du rapport à la religion, des réappropriations, des réinventions religieuses et également certaines formes assez limitées quand même, je vais l'expliquer, de prise de distance par rapport à l'héritage religieux. Si l'islam a toujours fait partie de l'existence, a toujours eu une grande place hein, dans l'existence de ces jeunes femmes, sa place en fait dans leur vie et ses significations ont eu tendance à évoluer, puisque l'islam était d'abord un ensemble d'habitudes, de routines hein, transmises par le milieu pratiquant plus généralement, et il est ensuite devenu un élément essentiel de l'identité pour soi, hein, pour reprendre une formule de Claude Dubarth, c'est-à-dire vraiment de la manière dont elles se définissent et de ce qui est important dans leur vie et dans leur projet de vie. Et ça, c'était très très fort dans les entretiens. Elles racontent par exemple qu'elles sont allées au Chioni au départ parce qu'elles y étaient poussées et qu'elles ont à un moment, alors c'est souvent à l'adolescence que ça se produit, hein, comme l'ont montré d'autres travaux hein, sur les jeunes musulmanes, et qu'à un moment donné, elles y sont allées par plaisir ou elles ont même demandé à y retourner quand elles avaient cessé d'y aller. Et en entretien, elles racontent aussi très souvent ces enquêtées, les moments d'introspection religieuse qui ont été les leurs, c'est-à-dire les moments où elles se sont demandé ce qu'elles faisaient de bien et de pas bien par rapport à la religion. J'ai du coup retrouvé quelque chose qui avait déjà été montré, notamment par Julien Baugé, que je cite là, pour ces jeunes femmes. La figure de l'excellence religieuse est vraiment concentrée dans la pratique, c'est-à-dire que ça consiste à pratiquer mieux, à pratiquer plus. Donc c'est vraiment l'excellence rituelle. Et elles évoquent aussi de différentes manières hein, que se perfectionner en religion, c'est aussi adopter un certain nombre de bons comportements. Donc j'aurais pas le temps de détailler hein, sur vraiment ce que ça veut dire, mais c'était très marquant. Ce qui m'a aussi intéressée, c'est à quel point en fait leur volonté de se perfectionner en matière religieuse et peut être mis en parallèle avec leur volontarisme scolaire. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'elles ont grandi dans des familles où elles étaient encadrées, mais où elles étaient aussi très poussées dans leurs études. Les familles étaient très mobilisées scolairement. Et la manière dont elles écrivent, la façon dont elles ont travaillé à l'école, présente un certain nombre d'homologies avec ce qu'elles disent de leur religion. Donc là, je vous ai mis un extrait d'entretien qui va un peu dans ce sens, où voilà, elle dit « La religion, ça me pousse à être meilleure ». Et en fait, elle a décrit à plusieurs autres moments dans l'entretien à quel point ses parents étaient stricts avec elle du point de vue de l'école et à quel point elle a toujours travaillé. C'était quelque chose de très important. Et voilà, et donc elle a souligné son sérieux scolaire à maintes reprises. Le cheminement religieux des interviewés marque aussi, parfois, dans certains cas, une forme de prise de distance par rapport aux familles. Et là, j'ai retrouvé quelque chose d'assez classique hein, que d'autres recherches avaient bien illustré, c'est-à-dire que les jeunes filles vont mettre en avant un islam qu'elles auraient appris, hein, elles vont mettre en avant leur science de l'islam par rapport à des familles qui seraient du côté d'un islam des traditions, d'un islam d'ailleurs, de pratiques en fait religieuses qui relèvent plus des traditions que du vrai islam. Et là, donc, dans cet essai d'entretien, vous voyez Shadia qui le dit clairement. J'aurais pas l'occasion de détailler la question du voile, mais plusieurs de mes interviewés étaient voilées. Et par rapport à ça, Shadia, elle dit bien qu'en fait, le foulard, ça fait partie justement de cette prise de distance par rapport à l'islam familial, puisque, elle dit-elle, sa mère, elle ne comprenait pas, elle a été d'ailleurs opposée à ça, elle ne comprenait pas que c'était obligatoire, et elle décrit aussi ce voilement en termes de réflexivité, hein, d'introspection, puisqu'elle dit, je me suis posé des questions sur le pourquoi, le comment, et j'ai voulu, à un moment donné, porter le voile. Alors, dans certaines familles, le voilement, il relève plus une évidence, puisque les mères le portent, un certain nombre de cousines, de tantes, d'adolescentes dans le quartier le portent aussi, mais plus souvent, il est quand même le signe d'une forme d'autonomisation dans le rapport à la religion. Alors, cette prise de distance se fait quand même sous conditions. Et j'ai trouvé, donc pour revenir un peu à ce que je disais au début, j'ai trouvé qu'elle était quand même plus limitée que ce qu'on pouvait observer dans d'autres enquêtes. Je n'ai pas rencontré, en fait, dans mon enquête de cas de détachement ou d'éloignement, même un peu momentané, par rapport à la religion. En fait, l'identité musulmane, les pratiques qui l'accompagnent, c'est peut-être ce qui a été le mieux transmis dans les familles. C'est quelque chose de très fort. Notamment si on compare cela avec un certain nombre de normes coutumières qui renvoient à ce qu'on appelle les traditions comoriennes, qui, elles, sont parfois respectées, mais aussi pour un certain nombre d'autres pratiques critiquées par les jeunes femmes que j'ai enquêtées. C'est le cas du grand mariage, j'aurais pas le temps d'évoquer ça, mais ce qu'on voit, c'est que les jeunes femmes ont tendance à négocier les conditions de leur union. Dans l'ensemble, elles respectent une règle d'endogamie ethnique, dans le sens où elles font porter leur choix sur des Comoriens, une endogamie qui est aussi religieuse, sur des Comoriens musulmans, mais elles ont très souvent expliqué que la seule appartenance à l'islam ne suffisait pas à satisfaire leurs parents en termes de projet d'union. Donc je conclue, je n'ai pas rencontré dans l'enquête de cas de rupture par rapport à l'héritage religieux, sauf un seul cas en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que moi je compare beaucoup en fait les fratries. C'était une famille dans laquelle j'avais interrogé toutes les sœurs et voilà. Donc du coup, ça permet un peu de se poser des questions sur ces trajectoires de rupture, au contraire de fidélité à la famille. C'est vraiment le temps de conclure. Et donc les éléments un peu d'analyse que j'ai, je finirai là-dessus. En fait, c'est une jeune femme donc qui dit qu'elle est que l'islam est très important pour elle, sauf que elle le pratique de manière vraiment privatisée. Elle a une relation amoureuse depuis 10 mois environ avec un jeune homme non musulman. Un Français, dit-elle, et elle a des relations sexuelles avec ce jeune homme. Elle a 29 ans, mais elle n'est pas donc en couple ni installée avec lui. Elle fréquente le moins possible les événements comoriens, etc. Et ce qui était intéressant, c'est que elle a cette trajectoire un peu de prise de distance et de rupture par rapport aux normes familiales. Elle a aussi concerné l'école, puisque c'est une jeune femme qui n'a pas été sérieuse scolairement, alors que ses grandes sœurs ont fait, elles, toutes des études, etc. Donc le statut de cadette, je fais l'hypothèse que ça compte aussi la place dans la fratrie, et là le statut de cadette me paraît un élément aussi d'explication. Juste pour finir sur son cas, en fait c'est une prise de distance assez partielle par rapport à l'héritage familial, puisque c'est une jeune femme qui est indépendante financièrement, elle travaille, elle continue d'habiter avec sa mère et elle dit qu'elle, pour l'instant, elle y est bien. Et en fait, elle a séparé les espaces et elle n'a pas avoué cette relation. Donc elle a complètement séparé l'espace familial, l'espace de la religion et l'espace privé, amoureux et du travail. Donc pour l'instant, c'est comme ça, mais c'est une on peut supposer que sa situation est encore instable et ne durera sans doute pas comme ça. Donc par la suite, ce que je voudrais, c'est multiplier ces cas déviants. Déviant de deux manières, déviant par rapport aux normes familiales, mais aussi déviant parce que, au dire des enquêtés et aussi dans ce que j'ai pu trouver sur les recherches qu'on portait sur les Comoriens, ces cas-là de rupture nette par rapport aux normes familiales sont plutôt minoritaires. Mais justement, ce qui m'intéressait, c'est de les multiplier pour pouvoir les analyser plus en profondeur. Voilà, désolée pour le dépassement.
Okay.